Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La sortie demain du nouvel album de Pierre Perret, Humour et Liberté. 12 titres inédits. Steven Bellery a rencontré en avant-première le créateur du Zizi et du Torboyau. Nicolas Mathieu a donc reçu hier le prix Goncourt 2018 pour son roman Leurs enfants après eux. Bernard Lehu était chez Drouan, au plus près du lauréat et des jurés pour ce palmarès. Nous vous offrirons notamment le tout nouveau prix Goncourt de Nicolas Mathieu. À la télévision ce soir, le premier épisode du feuilleton Ad Vitam sur Arte avec Yvan Attal. Isabelle Morini-Bosque nous parlera également du retour programmé de Qui veut gagner des millions, cette fois sur TF1. Enfin, Marc Chagall, le peintre de la couleur, s'est aussi inspiré du noir et du blanc. À Aix-en-Provence, une grande exposition est consacrée à ce pan méconnu du travail de l'artiste. Sophie Orange l'a visité pour nous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Avant de parler des sorties de la semaine, on l'a appris hier soir, le compositeur Francis Lai est donc mort à l'âge de 86 ans.
Jusqu'au bout, il aura gardé les cheveux longs et un amour pour la musique populaire. C'est en 1966 qu'il connaît le succès. Francis Lai est nommé aux Oscars pour la musique d'un homme et une femme de Claude Lelouch. 5 millions de disques vendus et le début d'une histoire d'amitié. Je viens de joindre en exclusivité Claude Lelouch. Il livre pour RTL sa toute première réaction.
C'était l'homme de ma vie. C'était un ange déguisé en accordéoniste. Et on a fait 35 films ensemble et on a vécu une histoire d'amour qui a duré 50 ans. Voilà, donc il reste pour moi sûrement le plus grand mélodiste français. Il a fait battre le cœur de tous mes films. Quand mes films décollaient, c'était grâce à lui. Je garde que des bons souvenirs. Il était la première personne à qui je racontais mes films, puisque j'ai toujours enregistré la musique de mes films avant. J'enregistre la musique comme un acteur principal et donc je lui racontais le film. Et puis 10 jours, 15 jours plus tard, il me racontait le même film avec des notes de musique. J'ai tout On met tous mes films avec la musique de Francis sur le plateau. On vient de faire notre dernier film ensemble, que je suis en train de monter, et c'est peut-être notre plus beau film. Je suis triste qu'il n'ait pas eu le temps de le voir.
Et ce film est une suite d'Un homme et une femme. Est-ce que vous diriez que la musique de Francis Lai pour Un homme et une femme a contribué au succès mondial du film?
Ben évidemment, ça ne fait aucun doute. Le film se servait énormément des chansons pour raconter ce qu'on ne peut pas raconter. Quand Jean-Louis et Anouk marchent sur la plage, c'est parce que la musique de Francis les fait marcher.
Dernière question, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu, écouté pour la première fois ce Shabadabada ?
Francis habitait Montmartre à l'époque, c'était plutôt une loge de concierge qu'autre chose. On se mettait sous les draps pour pas faire de bruit pour les voisins, dans le lit avec l'accordéon. Et ce jour-là, il m'a fait écouter une dizaine de thèmes qui étaient tous merveilleux, mais c'était pas le thème que je cherchais. Et puis à un moment donné, il me dit avant de partir, écoute, il y en a un autre, là j'ai un petit départ, je sais pas. Et il m'a fait écouter Un homme et une femme. Et je lui ai dit, écoute, c'est ça, on le tient. Et après, on a travaillé toute la nuit sur ce thème pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Voilà.
L'émotion de Claude Lelouch, son frère de cinéma, mais c'est pour Love Story d'Arthur Hiller que Francis Lai a obtenu la statuette américaine. Entre-temps, Francis Lai a composé pour les plus grands artistes de l'époque, Édith Piaf, Marie Laforêt, Nicole Croisy, une quarantaine de mélodies pour Mireille Mathieu ou encore Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
La bicyclette en 68, c'est lui. Francis Lai sera l'un des pionniers dans la recherche des sons synthétiques. Exemple pour Johnny Hallyday en 72. Francis Lai, avec 86 ans, il nous lègue plus de 600 chansons et 100 musiques de films.
L'hommage de Laissez-vous tenter à Francis Lai. On va poursuivre ce journal musical avec le retour de Pierre Perret. Steven, le chanteur publie demain un nouvel album intitulé Humour, Liberté.
12 chansons toujours aussi bien troussées. Pierre Perret n'a rien perdu de sa verve et de son humour. Son regard sur notre époque est d'ailleurs implacable. Les attentats à Charlie Hebdo ou au Bataclan lui ont notamment inspiré 2 chansons. Voici l'une d'elles, Ma France à moi.
Ma France à moi, qu'avant tout j'aime, c'est celle de la liberté d'expression. Les mots d'amour, voire les blasphèmes, sont l'essentiel de ma respiration. France de Matisse, Monet, Soulage, France de des proches et des tweets de pivot, France de Coluche, France du partage, France de Daumier, Gottlieb et Picasso. ma France à moi, peut-être croyante, mais a parfaitement le droit d'être athée. Bible ou Coran, si ça lui chante, elle dit pardon, c'est pas ma tasse de thé.
À 84 ans, Pierre Perret consacre encore la plupart de son temps à écrire, une passion qui ne se délite pas avec le temps, confidence.
J'ai jamais autant serré les boulons dans l'écriture. Il faut aller à l'essentiel et il n'y a rien de plus difficile que d'aller à l'essentiel, justement. Et chaque fois, je suis de plus en plus désespéré parce que ça ne me plaît jamais à 100%. Et l'autre jour, sur une chanson qui s'appelle « Ma France à moi », la secrétaire à qui j'ai fait taper les textes à partir de mes manuscrits, etc., quoi, me dit « Vous savez combien vous m'avez fait taper de version ?» Elle me dit « Il y en a plus de 45 ». Voilà, et elle est toujours restée là, alors ça va, c'est signe qu'elle n'est pas totalement désespérée. Quand j'arrête d'écrire, et ça ne m'arrive pas souvent, parce que j'écris tout le temps, ben après je vais à la pêche au saumon, je vais aux champignons, je vais voir des copains, je vais au cinéma, je ne m'emmerde jamais une seconde. J'emmerde peut-être les autres, mais moi je ne m'ennuie pas du tout. C'est un besoin, parce que j'ai toujours aimé ça. L'écriture avant tout, c'est une quête ininterrompue depuis tout le temps.
Vous avez envie de chanter jusqu'à quand?
Ça, je m'en fous, jusqu'à ce que j'ai les moustaches en croix. Demain, dans un an, dans cinq ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Si j'entends soupirer un mec au deuxième rang, le lendemain, j'arrête tout.
Laissez venir à moi les petits enfants, disais-tu Benoît, aux parents confiants. Mais qui eût pu croire, au sein de la curie, que le bon père Bernard trempait son biscuit.
La chanson « Pédophile », l'une des plus acerbes du nouvel album de Pierre Perret.
Pierre Perret a-t-il puisé, comme à son habitude, dans ses souvenirs pour ses nouvelles chansons, Steven ?
Évidemment, sans être nostalgique pour autant, il rend hommage à sa mémé Anna et chante aussi « La communale ». Il y confesse « Le calcul mental, j'y entre avec que dalle ». J'ai donc demandé au chanteur du Zizi s'il savait compter aujourd'hui.
Non, toujours pas. J'ai une femme qui compte mieux que moi. Je récitais les poésies à l'école quand j'avais 6, 7, 8 ans. À l'époque, Verlaine, Victor Hugo ou Henri de Régnier. Et ça m'enchantait. À 17 ans, c'était Prévert. Et après, j'ai découvert des tas d'autres poèmes qui ont fait partie de ma vie et de tout ce que j'aimais. Et ça n'a jamais été malheureusement l'arithmétique. Mais j'en suis pas mort non plus. C'était terrible pour moi. Je sortais de la communale, mais je n'avais été qu'à la communale. Je n'avais pas connu d'études secondaires, je n'étais pas allé au collège, encore moins au lycée. Et donc, il a fallu que je m'immerge totalement dans cette discipline qui est la découverte de la poésie et la découverte des mots. Je devais être un peu maso, ça m'a beaucoup plu tout de suite. Voilà.
À la communale, le calcul mental, j'entrais avec que dalle, ça me cassait le moral. J'étais une vraie quiche, je n'avais pas compté. J'étais plus fortiche pour faire la dictée.
Humour, liberté, le nouvel album de Pierre Perret sort demain. Il chantera à Lyon le 30 mars. Notez que Pierre Perret sera samedi à 12h30 l'invité du journal Inattendu avec Vincent Parisot.
Alors au rayon disque également, la sortie demain de l'album live de Vianney.
Le CD et le DVD de son concert enregistré à Bercy en juin dernier.
Je suis comme un tambo, je ne fais que voler.
Un moment rare, seul à la guitare, Vianney mettait ainsi un point final à une séquence à succès. Son deuxième album a séduit plus de 500 000 acheteurs et il a donné des centaines de concerts partout en France depuis son éclosion en 2014. Et pour remercier son public, Vianney a glissé une troisième galette dans le coffret, un disque intitulé « Un peu plus à vous donner ». Il y a mis toutes ses récentes reprises ou ses duos, mais il a aussi enregistré 4 relectures inédites dans les conditions du live, à l'image de « J'ai oublié de vivre » de Johnny Hallyday.
À force de changer la couleur de ma peau, oh. Ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être un dieu, Hells Angel ou Bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine.
Depuis la fin de sa tournée, Vianney se fait discret. Pas question pour autant de faire une pause, c'est ce qu'il a confié à Stéphane Boutsock.
J'ai oublié. Ma manière de savourer, c'est de me permettre de faire des choses différentes. Mais certainement pas de végéter ou de me calmer, puisque j'ai toujours aimé travailler. Parce que j'ai jamais eu l'impression de travailler. Parce que j'aime trop faire de la musique. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, par contre, j'en fais plus sur scène. J'en fais chez moi pour les autres. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais rien du tout. Mais encore une fois, je compte avoir aucune stratégie jamais. Et faire ce que j'aime au moment où je le souhaite. Et j'ai des potes chanteurs et tout. Pour profiter, ils partent genre un mois en vacances. Et, je trouve ça cool. Je vois leurs photos et tout. C'est trop bien. Mais moi, je n'arrive pas à faire ça. Moi, ma manière de savourer, c'est d'essayer un nouvel instrument. Et du coup, comme j'ai un peu plus de temps d'être chez moi et d'essayer d'écrire des nouvelles chansons, voilà.
Que les vents te mènent ou d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus. Que la vie t'apprenne.
Mais Jacques
que tu es, par Vianney.
J'écoutais, j'avais l'air de ne pas suivre. En fait, voilà. J'écoutais. Il me surprend à chaque fois, Vianney, c'est incroyable.
Il est fort. Ce sont ses DVD. Sort demain, on le retrouvera au cinéma le 5 décembre dans Ma mère est folle de Diane Curis avec Fanny Ardant. Encore un nouveau défi pour lui.
Oui, rien que le titre me plaît déjà. C'était un journal musical signé Steven Bellery.
Puisque tu pars.
On revient quand même.
Oui, on va revenir surtout.
On part pas loin.
Monsieur Lehu est avec nous pour nous parler du Goncourt. Il y était hier, comme à chaque fois.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Le prix Goncourt a donc été attribué à Nicolas Mathieu, un jeune auteur lorrain, pour son deuxième roman, Leurs enfants après eux. Et vous étiez hier, bien entendu, au plus près du jury, dans la célèbre salle à manger du premier étage chez Drouan.
D'où Bernard Pivot observait d'un œil gourmand l'arrivée du lauréat, cerné d'une forêt de micros et caméras.
Je trouve ça un joyeux bordel, oui. Regardez, il va arriver, le pauvre. Voilà. Félicitations.
Merci beaucoup, merci infiniment, je suis ravi.
Suivez-moi.
Monsieur Nicolas Mathieu.
Dans Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu suit une bande d'adolescents, oui bravo monsieur Mathieu, dans une petite ville de Lorraine en proie à la crise. La Lorraine, d'où sont originaires deux des jurés de Goncourt de Poix, Philippe Claudel et Virginie Despentes. Alors j'ai demandé à l'auteur de Vernon Subutex s'il y avait un lobby lorrain au sein du jury.
C'est ça. C'est rare, on entend rarement parler du lobby lorrain, mais là, on ne parle pas souvent de l'Est, ni dans le roman, ni dans le cinéma français. L'Est de la France, on peut dire qu'on n'est pas très attrayant, très attractif, donc il y a très rarement des romans qui se passent où tu as l'impression d'entendre l'accent lorrain. Moi, je le connais bien, l'accent, et dans ce roman-là, tu sais qu'ils parlent vraiment, ils ont l'accent lorrain. Quoi. Mais s'il n'était pas d'ancien, ça serait la même chose, ce serait le même livre. Évidemment, le fait qu'il soit d'ancien me touche un peu.
Il y a aussi le contenu, évidemment, l'histoire de ces...
Oui, il y a le contenu, parce que même le fait que une histoire d'adolescence me paraît intéressant. Ça reste un thème intéressant pour la littérature, le roman d'initiation. Quoi. Le roman d'initiation, c'est un genre... Et c'est vrai que c'est assez rare au Goncourt, c'est pas tellement le genre de roman qu'on sait d'habitude, et à la fois, ça passe tout seul, non ?
Eh oui. Autre juré éminent du Goncourt, Éric-Emmanuel Schmitt. Il a également beaucoup apprécié le livre de Nicolas Mathieu.
Enfin, un roman qui parle de la France. Alors, c'est pas tout à fait la France contemporaine, parce que ça se passe dans les années 80 et 90. Et puis, un roman social aussi, qui se passe dans un milieu où malheureusement les difficultés se reproduisent de génération en génération. Mais c'est un roman couillu aussi. C'est un roman avec de la chaleur, du sexe, avec des désirs. Il y a des personnages qui sont même des putes qui vont en avant. C'est un roman aussi très sensuel.
Bon alors, la parole au lauréat maintenant.
Bah oui, tout de même, Nicolas Mathieu nous dit pourquoi il s'est intéressé à une bande d'adolescents.
C'est le moment où notre économie amoureuse se construit. C'est le moment où les prises de conscience s'affermissent. C'est aussi là où le désir atteint peut-être son point culminant. C'est des intensités très très fortes et j'avais envie de parler de ça. Et puis j'avais très envie de, dans cette vallée, avec ce monde qui finit, celui de l'industrie, puisque c'est quand même les hauts fourneaux qui se sont éteints, j'avais envie aussi de mettre en regard de ça l'appétit de vivre intact et d'en croquer une poignée de personnages. Et l'adolescence me servait aussi à ça, à parler de... Ben voilà, un monde qui finit, c'est jamais la fin du monde. Et chaque génération a son tour, leurs enfants après eux. Chacun veut sa part du gâteau et en croquer.
Voilà pourquoi Leurs enfants après eux, fresque sociale et roman d'apprentissage dans une France en déshérence, et pourtant un livre bourré de vitalité et d'énergie, porté en outre par une langue moderne, survoltée et beaucoup plus sophistiquée qu'elle n'apparaît. Nicolas Mathieu, donc, prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux, publié chez Actes Sud.
Et nous avons le plaisir de vous faire gagner ce livre, Leurs enfants après eux, publié chez Actes Sud, si vous répondez à la question de Bernard.
Alors, dans quelle région se déroulent Leurs enfants après eux, la réponse au 32-10. Voilà.
Isabelle a un mot à dire.
Petit post-scriptum, l'adaptation du livre, de son livre Aux animaux de la guerre
son
arrive
premier
le 15
livre,
novembre.
Le, livre précédent.
Oui, le 15 novembre sur France 3, série de 6 épisodes avec Roche Dizem. C'est pas joyeux, mais c'est formidable.
La réponse est au 32-10, je vous le rappelle. Vous avez même peut-être le droit à une petite Mirabelle. Bon, si vous voyez l'allusion. Alors, il est connu pour être le maître incontesté de la couleur. Vous allez le découvrir aussi en noir et blanc. Donc, qu'est-ce que je fais un peu, je suis parti là-dedans, moi, c'est normal.
Mais non, on va parler de télé. Plutôt.
On fait la télé maintenant
si ça vous dit.
J'ai dû abuser de la Mirabelle hier soir. Alors.
Mais on peut donner les audiences.
Ah, c'est les audiences de Londres. Les audiences avec Médiamétrie.
Eh bien, écoutez, pour une fois, Esprit criminel est en tête. 4 300 000 téléspectateurs et 18% du public. 18% du public aussi sur France 2, mais avec 120 000 téléspectateurs de moins pour le téléfilm policier Les Ombres du Passé. Et en troisième position, Inaltérable, le meilleur pâtissier, fait un très beau score avec plus de 2 810 000 téléspectateurs. Côté TNT, Burger Quiz dépasse le million, mais le démarrage d'Access avec Ahmed Silla est très bon sur C8, près de 900 000 téléspectateurs.
Alors on va signaler maintenant pour ce soir la diffusion sur TF1 de Danse avec les stars, habituellement programmée le samedi.
Et oui, c'est le grand écart, si j'ose dire, pour le télécrochet de danse diffusé donc ce soir pour cause de programmation des Music Awards sur la Une samedi. Les candidats ont donc 2 jours de moins pour s'entraîner, ce qui n'est pas un handicap pour le nouveau présentateur Camille Combal, qui lui ne mouille le maillot que verbalement. À propos de Camille Combal, on le retrouvera bientôt aux manettes de ceci. Vous avez reconnu Yves.
C'est votre dernier mot.
Et oui, qui veut gagner des millions. Est-ce à dire que Jean-Pierre Foucault est hors jeu? Que nenni, et c'est Jean-Pierre lui-même qui m'a tout raconté hier matin. Mardi, TF1 lui demande de reprendre ce jeu mythique. Pas question, répond Jean-Pierre, d'imiter ces artistes qui font 30 fois leurs adieux. Je l'ai dit, le loto et la soirée Miss France me suffisent désormais professionnellement. En revanche, ajoute-t-il, de la même façon que Guy Lux m'avait passé le relais autrefois, je veux bien faire de même pour un nouvel animateur et je vous suggère Camille Combal. Or donc, enregistrons un dernier qui veut gagner des millions avec Camille Combal comme candidat et à la fin de l'émission, je lui céderai officiellement la place. Camille Combal ayant accepté le même jour, donc mardi, ne reste plus qu'à trouver une date de tournage et pour l'instant, c'est mon dernier mot, Yves Calvi.
C'est parfait. Un autre programme à signaler ?
Oui, le nouveau feuilleton d'anticipation Ad Vitam sur Arte. Alors moi, l'anticipation, c'est pas mon genre préféré du tout. Or, j'ai craqué pour ce feuilleton fouillé, parfois un tout petit peu fouillé, dont le héros, Darius, joué par Yvan Attal, formidable, est un policier de 119 ans dans un monde où la mort est non seulement bannie, mais interdite, où les héros régénèrent indéfiniment leurs cellules, à l'âge qu'ils choisissent, avec deux sortes de dissidents, ceux qui veulent vieillir à l'ancienne et affronter la mort comme ultime aventure, et les jeunes tentés par le suicide comme ultime rébellion. Quand l'histoire commence, on fête le 169 de la doyenne du monde, une japonaise qui semble en avoir 20. Et peu après, on retrouve le corps de 7 jeunes a priori suicidés et appartenant à une association de mineurs que vont voir Darius et son adjoint.
Capitaine Asram, lieutenant Leski.
Bonjour.
Un appel lié au suicide a été passé d'ici, c'est ça?
Vous avez une liste de vos adhérents? Non.
C'est très libre et on tient ce que ça le reste.
Combien sont-ils?
30 000, 40 000.
C'est invraisemblable. Vous dirigez une association de 30 000 mineurs sans avoir la moindre idée de qui la compose.
On a reporté la majorité à 30 ans. Vous avez fait de la jeunesse une longue salle d'attente.
Ouais. Moi, j'ai fait ça.
Ouais. Ici, on encourage. Ouais. On vit. Parce qu'ici, les mineurs comptent.
Ouais. Le discours est bien en place. Bravo. Un peu plus si je faisais un don.
Voilà, l'enquête commence. Alors, il faut un petit peu s'accrocher, mais moi, j'ai trouvé ça si passionnant que j'ai regardé les 6 épisodes d'un coup. Et se pose le problème de la démographie et de l'utilité de la jeunesse, puisqu'on ne vieillit pas. À quoi servent les jeunes?
Vous avez bien raison.
Voilà, c'est formidable.
Mirabelle de nuit, c'est votre nouveau surnom, j'ai décidé.
Oh, bah, Isabelle Morelli-Bosse. Elle en accepte l'augure.
Voilà, dans un instant,
elle
on part avec son Provence. J'essaie d'aider nos auditeurs.
J'ai fait une blague, mais vous ne l'avez pas entendue.
Pardonnez-moi.
Mirabelle de nuit ne compte pas pour des prunes.
Ah, très bien.
Il fallait.
On va y aller peut-être maintenant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Il est connu pour être le maître incontesté de la couleur. Vous allez le découvrir aussi en noir et blanc. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
De qui s'agit-il ?
Marc Chagall. Voilà. Le peintre s'expose à l'hôtel de Caumont, à Aix-en-Provence. Et le noir et blanc, c'est vrai, c'est un sacré contre-pied pour Chagall. C'est ça qui rend cet accrochage surprenant, passionnant. Chagall avait déjà dessiné en noir et blanc en 1910-1920. Mais là, l'exposition s'attarde sur la fin de sa carrière entre 1948 et 1985. Entre 61 ans et 98 ans. Oui, Chagall meurt à 98 ans. Et je peux vous dire que Chagall en noir et blanc, c'est très, très, très beau. On va voir beaucoup de couleurs aussi à l'hôtel de Caumont, mais ce passage par le noir et blanc est indispensable pour comprendre toute son œuvre. Voilà ce que va nous expliquer Merette Meyer, c'est la petite fille du peintre, co-commissaire de l'exposition.
C'est un contre-pied, mais c'est justement par ce contraste qu'on arrive à démontrer que la couleur elle ne tombe pas du ciel, et qu'elle est construite par une vraie réflexion, une conception et un approfondissement du noir pour arriver vraiment au noir dans la couleur.
Un passage par le noir et blanc pour nourrir, hein, on peut dire, pour enrichir la couleur. Une expérimentation de Chagall pour se renouveler. Et paradoxalement, je trouve que c'est au visiteur, finalement, d'imaginer la palette de couleurs. On regarde un dessin en noir et blanc et on voit de la couleur. C'est comme ça que je l'ai vécu devant ce portrait de Vava, sa deuxième épouse, dessin en noir et blanc de 64. On voit, je trouve, du rouge à lèvres, du fard à paupières et on donne une couleur au bouquet derrière, un peu bleu, un peu vert. Ou alors, ce titre de ce dessin, Les toits rouges, le titre est en couleur, évidemment, le dessin est en noir et blanc et pourtant on voit les tuiles de couleur. Et dans la peinture de Chagall, dans ses tableaux les plus colorés, le noir a de la couleur, noir de toutes les couleurs si on peut dire, et inversement.
Vous venez de dire le noir a de la couleur, mais en fait le noir est une couleur.
Exactement, c'est même le titre d'une exposition dans une galerie à Paris et d'une affiche de Matisse en 1946. Le noir a des reflets de couleur. On va encore mieux comprendre avec Ambre Gauthier, l'autre commissaire de cette exposition.
Le noir a une capacité de projection, une capacité de réflexion de la lumière, et que finalement, est-ce qu'un noir peut vraiment être toujours noir? Par exemple, dans l'œuvre de Marc Chagall, le noir, très souvent, c'est un noir qui est nourri par du bleu, par du rouge, par du vert. C'est un noir qui n'est absolument pas uniforme. C'est un noir, en fait, qui lui sert à révéler la lumière. Donc le passage par le noir et blanc, finalement, c'est aussi un passage par l'expérimentation classique et par la redécouverte des valeurs de couleur, des tonalités, des transparences, des contrastes. Donc qui dit pratique du noir et blanc, dit finalement aussi meilleure compréhension et meilleure pratique de la couleur.
C'est le cas par exemple dans un autre tableau en couleur, cette fois Paris entre deux rives, le bleu est nourri par des gris, un bleu aussi nourri par des noirs. Chagall passe du noir et blanc à la couleur, en dessin, en peinture, donc on l'a vu, mais aussi pour créer des céramiques à partir de 1952, plus de 200 céramiques en noir et blanc et en couleur. Chagall mélange les techniques avec même dans le personnage de l'opéra, de la terre et de la sciure dans la peinture. On le voit très bien quand on s'approche du tableau, c'est un peu grumeleux.
Mais la couleur triomphe à la fin.
Oui, exactement. Avec Chagall, la couleur va toujours triompher avec des tableaux monumentaux. Le village fantastique, l'Arlequin, même si 10 ans plus tard, il dessine encore en noir et blanc. Vous en verrez un dans l'exposition qui date de 80, toujours ce passage du noir et blanc et de la couleur. Et contrairement aux idées reçues, Chagall n'était pas ni déprimé, ni maudit. Confirmation avec Mérette Meyer, sa petite fille.
C'est un artiste qui croyait en la vie, mais qui doutait du matin au soir. Le noir et blanc a bien entendu un lien avec les temps des ténèbres politiques, historiques. Il n'y a pas une seule interprétation dans le noir, mais certainement on est très éloigné de la déprime. Je pense qu'il ne connaissait même pas vraiment l'état de déprime, certainement le mot oui, mais il était avec cette nécessité de travailler, de se remettre en question tous les jours, très très éloigné d'un monde en noirceur.
Un Chagall à découvrir à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.
A tout de suite pour savoir si vous avez gagné le prix Goncourt.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Leurs enfants après eux, on va faire la liaison. Bon. C'est le titre du prix Goncourt depuis hier. Dans quelle région se déroule ce roman ?
Ça se passe en Lorraine.
Voilà, vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné le Goncourt et maintenant vous n'avez plus qu'à écouter Julien Courbet.
Ok, un jour aura le Goncourt. Hein.
Je ne sais pas vraiment, je ne vous sens pas parti pour.
Bah, écoutez, en tout cas merci, ça me donne envie de faire l'émission, la pleine bonne humeur, vous me mettez en confiance, c'est formidable.
Mais ça n'a rien à voir.
Dites carrément demain, on va retrouver maintenant l'autre crétin de Courbet et on gagnera du temps,
bon,
monsieur Calvi.
On va retrouver l'autre crétin de Courbet.
Voilà,
allez.
Merci beaucoup. Eh bien, on va démarrer. Bonne journée, mon Yves. Je me mets à la place de celui qui a allumé la radio juste à ce moment-là.
Oui, ça.
Et non, ça a bien changé, RTL.
C'est s'engueule, RTL, c'est horrible.
Et tout à l'heure, ce sera l'autre couillon de Stéphane Bern à partir de 11h.
Quel abruti, celui-là.
Bonne émission.